deuxième temps de notre série titrée Moyen-Âge en mouvement. Aujourd'hui, le documentaire sur les pas des Plantagenets, une chevauchée normande. Après vous avoir parlé hier des barbares avec Bruno Dumézil et du roi Arthur avec William Blanc et avant-demain de visiter l'exposition sur les temps mérovingiens au musée de Cluny à Paris, nous vous proposons ce matin d'approcher une cour itinérante, celle des rois Plantagenets, quand au XIIe siècle ils parcouraient leur territoire normand. Dans ce documentaire, nous allons évoquer leur pouvoir civil et leur pouvoir militaire, leurs relations avec leurs vassaux, avec les religieux ou encore avec les marins qui leur permettaient de traverser la Manche et de relier ainsi les deux parties de leur territoire royal. Jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, sur les pas des Plantagenets, une chevauchée normande avec Fanny Madeline, Julien Dehé, Laurent Jean-Marie, frère Paul Emmanuel et Jean-Marie Lévesque.
Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, traverse la Manche en 1066 pour conquérir le trône d'Angleterre qu'il considérait comme son héritage. Après sa victoire à Hastings, il devient roi d'Angleterre et divise son empire entre ses deux fils aînés, Robert à la Normandie et Guillaume le Roux l'Angleterre.
À la cour des Plantagenets, une chevauchée normande.
En 1100, Guillaume II dit le Roux meurt accidentellement à la chasse. Le troisième fils de Guillaume le Conquérant, Henri, qui était destiné à la cléricature, revendique son héritage et prend sa succession. Il s'empare également de la Normandie en 1106, à la bataille de Tingebray, et réunit à nouveau l'Angleterre et la Normandie. À sa mort en 1135, une nouvelle guerre civile oppose son neveu, Étienne de Blois, et sa fille, Mathilde Lempresse. Cette guerre s'achève en 1153, lorsque le fils de Mathilde et du comte d'Anjou, Geoffroy le Bel, Henri Plantagenet, est désigné par Étienne comme son successeur. Étienne a la bonne idée de mourir l'année suivante, laissant Henri II Plantagenet, maître d'un espace allant de l'Écosse aux Pyrénées, à la suite de son mariage avec Aliénor d'Aquitaine en 1152.
J'ai toujours aimé les cartes. Et c'est en tombant sur celles que Fanny Madeline a insérées dans sa thèse sur l'Empire Plantagenet, mettant en scène le long serpent des voyages des souverains sur le continent au XIIe siècle, qu'est née l'idée de partir aujourd'hui sur leurs pas dans leur territoire normand. Car il fut un temps entre la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Bâtard, devenu ensuite le conquérant, et la défaite des troupes de Jean sans Terre à Château-Gaillard en 1204, il fut un temps où les souverains d'Angleterre, Henri Ier, Henri II et Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, parcouraient chaque année ou presque leurs territoires continentaux, de la Normandie au Poitou, du Maine à l'Aquitaine. Leur cour était mouvante et cheminée au gré des envies du roi, de résidences de chasse en château, d'abbaye en palais civil. Avec Fanny Madeline, nous avons élaboré un itinéraire normand qui part de Barfleur, à la pointe du Cotentin, passe par Bure-le-Roi, près de Bayeux, file vers le château de Caen, avance ensuite vers l'abbaye du Bec-et-Loing, avant de se terminer à Château-Gaillard, dont la prise signa la fin de la Normandie anglaise.
Barfleur, qui est une des escales importantes, c'est le lieu principal où débarquent les Plantagenets lorsqu'ils reviennent d'Angleterre et qu'ils arrivent sur le continent. Les raisons pour lesquelles ils arrivent à Barfleur, elles peuvent être de différentes natures, mais c'est aussi un des chemins les plus courts qui relie Southampton à la côte normande.
Parce qu'on est tout au bout de la presqu'île du Cotentin.
Exactement. Il y a sans doute du coup des familles d'armateurs qui se sont développées et qui ont des bateaux qui transportent le roi et sa cour de part et d'autre de la Manche.
Parce que la particularité de cette famille royale, c'est justement de ne pas se contenter d'être dans une cour fixe, mais d'avoir une cour itinérante.
Oui, alors les Plantagenets traversent très souvent la Manche, de la même manière que traversaient très souvent la Manche les rois normands, et notamment Henri Ier. Sur les 30-35 ans de règne d'Henri Ier et d'Henri II, la Manche est traversée plus d'une vingtaine de fois, c'est-à-dire qu'ils traversent la Manche presque tous les ans et demi. Les séjours longs d'un côté ou de l'autre de la Manche, deux ans et demi maximum.
Alors, cette traversée de la Manche a beau être une sorte de métro des heures de pointe Julien Des, elle n'en est pas moins dangereuse. Et d'ailleurs, tout près d'ici, si on longe le rivage, il y a le témoignage d'un de ces moments tragiques liés à cette traversée.
C'est vrai que beaucoup de textes mettent en scène les dangers de la traversée. On a en fait deux schémas, un peu le schéma idéal de la traversée nocturne, ça c'est le schéma d'une mer favorable. On part à la tombée du jour et on arrive le lendemain matin, donc on a des descriptions vraiment idylliques presque de la traversée. Et aussi effectivement des descriptions particulièrement difficiles, c'est le cas sous Henri II en 170 où on sait qu'il perd des navires lors d'une traversée. Mais ça a surtout marqué en effet le règne de Henri Ier avec donc le 25 novembre de l'année 1120, le naufrage de la Blanche-Neve au départ de Barfleur sur lequel s'était embarqué pas le roi Henri lui-même qui avait son propre navire, mais son héritier présomptif, Guillaume Clinton, ainsi que plusieurs membres de la haute aristocratie. C'est plus de 140 hommes, semble-t-il, 140 personnes qui meurent dans ce naufrage, emportant toute la jeunesse dorée, toute la jeunesse brillante, tout l'héritage de la dynastie anglo-normande.
Dans cette navigation, il arriva un cruel événement qui excita un grand deuil et fit couler des larmes innombrables. Thomas, fils d'Étienne, alla trouver le roi et lui offrant un mar d'or, lui dit « Étienne, fils d'Hérard, était mon père et toute sa vie il servit le vôtre sur la mer. Ce fut lui qui, sur son vaisseau, le porta en Angleterre quand il s'y rendit pour combattre Harold. Seigneur roi, je vous demande la même faveur. J'ai pour votre service royal un vaisseau parfaitement équipé que l'on appelle la Blanche Nef. » Le roi lui fit cette réponse. « J'agrée votre demande. Toutefois, j'ai choisi un navire qui me convient. Je ne le changerai pas. Mais je vous confie mes fils, Guillaume et Richard, que j'aime comme moi-même, ainsi que beaucoup de nobles de mon royaume. » À ces mots, les matelots furent comblés de joie. Et, se rendant agréable au fils du roi, ils lui demandèrent du vin. Il leur en fit donner trois muits. Quand ils les eurent reçus, ils burent et firent part abondamment à leurs camarades et, en usant l'excès, ils s'enivrèrent. Thomas, que le vin avait privé de sa raison, se confiait dans son habileté et celle de ses gens et promettait audacieusement qu'il dépasserait tous ceux qui le précédaient. Enfin, il donna le signal du départ. Aussitôt, les matelots saisirent promptement leurs rames et, pleins de joie, dans l'ignorance où ils étaient du malheur qui était devant leurs yeux, ils disposèrent les agrès et poussèrent le vaisseau avec une grande impétuosité sur les flots. Comme les rameurs, pleins de vin, déployaient toutes leurs forces et que le malheureux pilote s'occupait mal de la direction du gouvernail, le flanc gauche, la Blanche Nef, toucha violemment sur un grand rocher. Le vaisseau fut, hélas, à l'improviste submergé. Dans un si grand danger, tout le monde ensemble poussa des cris affreux. Mais l'eau ne tarda pas à leur remplir la bouche et ils périrent tous également. Deux hommes seuls se saisirent de la vergue qui soutenait la voile et, y restant suspendus une grande partie de la nuit, ils attendirent qu'il leur vint un secours quel qu'il fût. Le pilote Thomas, après avoir plongé dans les flots, reprit des forces. Rendu à sa raison, il éleva la tête au-dessus de l'eau et, voyant ceux qui se tenaient attachés à la vergue, les interrogea en ces mots. « Que sont devenus les fils du roi ?» Les deux naufragés lui ayant répondu qu'ils avaient péri, ainsi que tous leurs compagnons, il reprit. « Désormais, il m'est affreux de vivre. » À ces mots, dans l'excès de son désespoir, il aima mieux mourir en ce lieu que de s'exposer à la fureur du monarque irrité de la perte de ses enfants ou de subir les longues souffrances des fers. Orderic Vital, Histoire de la Normandie.
Laurent, Jean-Marie, quand on s'intéresse à ces personnes qui sont d'un côté et de l'autre de la Manche, a-t-on des renseignements sur ce type de personnalités qui sont à la fois à Barfleur et peut-être à Southampton, par exemple?
Ils font partie d'élites portuaires. On pourrait presque rattacher une petite aristocratie au service des princes. J'ai tenté l'idée de l'aristocratie de la mer compte tenu des modes principaux d'enrichissement, même si ils acquièrent aussi des biens fonciers. Ils possèdent des navires, ils recrutent des équipages, ils conduisent eux-mêmes les navires, probablement, en tout cas peut-être pas dans tous les cas, et ils ont des implications dans les ports, et notamment là où ça peut être le mieux mis en évidence, c'est à Barfleur et à Southampton, en sachant que les mêmes individus, ou en tout cas les mêmes groupes familiaux, peuvent avoir des implantations des deux côtés. J'ai réussi à rassembler une documentation un peu plus conséquente que pour d'autres pour la famille des Vitouli. C'est une famille qui, au XIIe siècle, est implantée à la fois à Barfleur, à Southampton, à Caen aussi. Eux-mêmes emmènent le prince dans leur navire, donc le côtoient ponctuellement.
Il y a donc un lien de confiance, j'imagine, parce que ça n'est pas rien de conduire le prince dans une traversée qui peut être dangereuse.
Tout à fait, ce qui expliquerait notamment, en tout cas c'est une de mes hypothèses, le rôle essentiel de Barfleur, qui est un port excentré par rapport au centre de pouvoir en Normandie, dans un secteur dangereux, peu accessible, et l'utilisation très fréquente par le prince de Barfleur est sans doute liée justement à cette synergie qui s'est créée entre des gens de mer et le prince. Le prince et son entourage sont des terriens, donc ils doivent s'en remettre à des gens de confiance.
Le siège du gouvernement des Plantagenêts et des rois normands est principalement Rouen, mais aussi beaucoup Caen, qui est la capitale de Guillaume le Conquérant. C'est là où se trouve l'échiquier de Normandie. Et pour rejoindre l'Angleterre, donc il y a Dieppe, Saint-Valery, sont des ports qui sont en Haute-Normandie, dans le Pays de Caux. Mais en passant par la baie des Vers, en remontant le Cotentin, où il y a de nombreuses forêts ducales, des forêts royales, le roi peut remonter tranquillement en Angleterre, tout en s'adonnant à son loisir favori qui est la chasse.
Dans les témoignages très nombreux de l'époque, le fait de voir la ménie royale, la suite du roi, est un véritable spectacle. Donc c'est sûr qu'il y a une présence symbolique, mais elle est en même temps très concrète et physique. On connaît, on identifie la figure du roi, et les Normands ont l'occasion de le voir. Mais je crois aussi que le Cotentin lui offrait un schéma de résidence qui lui permettait aussi les attentes. On sait que parfois c'était 2 mois d'attente avant de pouvoir s'embarquer. On sait qu'en 161, par exemple, Henri II avec Aliénor passe Noël dans le château de Cherbourg, puisqu'ils ont un château à Cherbourg, en attendant des vents favorables. Mais ils ont aussi juste en retrait la résidence de Valogne. Et quand on regarde le nombre d'actes signés à Valogne par Henri II Plantagenet, par exemple, ça dépasse Falaise, ça dépasse Bayeux. Ça montre que c'est une des résidences tout à fait privilégiées dans l'organisation Plantagenet.
Fanny Madeline, est-ce qu'il y a beaucoup de résidences royales? Sont-elles de différentes natures? Et joue-t-il justement de ces différentes natures des résidences pour pouvoir asseoir son pouvoir de façon différente aussi?
Oui, il y a les châteaux, les donjons qui sont dans les centres urbains, dans lesquels il va instaurer des fonctions, disons, régaliennes ou de son gouvernement ducal. C'est là qu'il exerce la justice. Le château de Falaise, par exemple, on pourrait citer celui-là. Le château de Domfront, plus bas, Argentan, qui sont des grandes forteresses dans lesquelles il passe souvent et dans lesquelles sont émis le plus grand nombre de ses actes quand il est en Normandie. Et à côté de ces grandes forteresses ou de ces grands ensembles palatiaux qui se trouvent dans des villes, existe un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler palais ruraux pour chasser. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a un certain nombre d'actes qui sont émis dans ces lieux, parce que finalement, lorsque le roi arrivait sur le continent, il annonçait sa venue sur le continent, et donc on allait à sa rencontre. Donc c'est pour ça que l'on a un certain nombre d'actes qui sont passés dans ces lieux du Cotentin, puisque c'est là que se retrouvaient le roi et ses sujets pour convenir d'un acte, d'une donation ou d'une confirmation de don.
La cour royale est un monde continuellement peuplé d'histrions, de prostituées, de joueurs de dés, de flatteurs, de malfrats, de vauriens, de parasites, de mimes, de bouffons et de fanfarons de toutes origines.
C'est difficile de s'en faire une représentation exacte. Moi, je trouve que ça m'évoque un peu quand on se promène dans nos villages. on apprend qu'à l'époque, par exemple, du roi Henri Plantagenet, ils ont été de véritables lieux de pouvoir et centres névralgiques. Bon, c'est de les voir, non pas un jour de semaine ordinaire, mais un jour de marché, quand d'un seul coup s'installent des tentes, des marchands. Et je pense qu'en fait, on avait de véritables villes mouvantes, en quelque sorte, que les marchands de tous les environs, en même temps d'ailleurs que les prélats et représentants des communautés religieuses, se précipitaient auprès du duc pour voir reconnaître leurs privilèges et leurs biens. En fait, ça devait être vraiment l'animation, l'attraction pour toute la population environnante.
Ils voyageaient comme nous, avec des chariots et des chevaux de somme, avec des bas et des paniers, des oiseaux et des chiens, hommes et femmes mêlés.
Comme la cour d'Henri II était composée de plusieurs centaines d'individus, tout le monde ne pouvait pas loger dans des abris en pierre. Donc il y avait forcément des campements. D'ailleurs, on sait que le roi lui-même dormait parfois sous tente et que l'arrivée de la cour nécessitait effectivement de faire venir des biens pour pouvoir nourrir tous ces individus qui accompagnaient le roi dans son itinérance. Par exemple, les comptabilités royales d'Angleterre mentionnent un certain nombre de denrées qui viennent du continent. Alors on a du vin de Touraine, mais on sait aussi, par exemple, que l'essentiel des châteaux et des monastères qui sont construits après la conquête sont construits avec la pierre de Caen. C'est-à-dire qu'on fait venir de la plaine de Caen la pierre qui a servi à édifier le château et surtout les deux fondations de l'abbaye aux hommes et de l'abbaye aux femmes, Saint-Étienne de Caen et la Trinité, qui sont les abbayes ducales et royales par la suite. Et on va prendre cette pierre qui est la pierre des conquérants, la pierre des colons. Exactement, puisque le paysage de l'Angleterre a été entièrement reconstruit, remodelé, et ces nouveaux lieux de centres de pouvoir vont matérialiser cette origine étrangère du pouvoir en important la pierre de Caen.
Jamais jusqu'à aujourd'hui, on a vu et entendu qu'il existait une cour comme celle-ci, et l'on craindra désormais qu'elle puisse à nouveau exister à l'avenir.
Ce portus ducal est aussi un lieu qui concentre énormément d'enjeux pour les communautés religieuses. Non seulement les communautés normandes, qui toutes possèdent, quasiment toutes possèdent des établissements, des comptoirs à Barfleur, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'abbayes, autres abbayes du royaume. On se rend compte par exemple que Cormery possède plusieurs prieurés, Marmoutier a des prieurés dans le Cotentin, et d'ailleurs, il possède aussi des navires pour aller vers la possession anglaise. Les moines de Saint-Nicolas d'Angers possèdent le prieuré de Saint-Denis. Et on trouve, fait assez rare et exceptionnel chez nous, aussi le petit prieuré de Saint-Côme-du-Mont, véritable marqueur quand on arrive dans la presqu'île du Cotentin, avec son beau clocher qui s'élève, qui est un prieuré donc de Cluny sur la route de Barfleur. Donc on voit que l'accès à ce point d'embarquement était un enjeu capital pour un grand nombre d'abbayes, y compris du centre de la France. Aujourd'hui, on ne voit plus qu'une petite portion de ce qu'a pu être le Barfleur des Plantagenets, en signalant d'ailleurs que ce qui a largement contribué aussi à faire de Barfleur un petit village au lieu de la grande ville que ça aurait, semble-t-il, pu être, c'est bien sûr les destructions de la guerre de Cent Ans. Et les Plantagenets eux-mêmes, mais quelques générations plus tard, ont été responsables aussi de la désaffectation de ce port qu'ils ont détruit à plusieurs reprises à l'occasion des guerres anglaises.
Monsieur Sainte-Beuve, vous pouvez nous décrire ce que nous sommes en train de faire? On est en train de quitter l'église de Noron-la-Poterie.
Exactement, et on est en train de marcher dans un herbage qui est juste à côté du cimetière et de l'église. Et nous marchons vers le lieu que nous pensons être Bure-le-Roi.
L'année 1172, le jour de Noël, Henri le Jeune était à Bure, à côté de Bayeux. Comme il tenait pour la première fois sa cour en Normandie, il voulut la célébrer en organisant de magnifiques festivités. Il rassembla des évêques, des abbés, des comtes, des barons et bien beaucoup d'autres personnes encore. En plus de ces nombreuses personnes, arrivèrent Guillaume de Saint-Jean, le sénéchal de Normandie, Guillaume fils d'Amon, le sénéchal de Bretagne, qui vint avec le duc Geoffroy, son maître. Ne pouvant tous manger dans le bâtiment,
on empêcha à tous les chevaliers qui ne s'appelaient pas Guillaume de manger dans la grande salle. Cependant, même après les avoir renvoyés, il restait encore plus de 110 chevaliers qui s'appelaient tous Guillaume, à l'exception de plusieurs d'entre eux qui portaient d'autres noms, mais qui avaient été acceptés à la table du roi dans l'Aola. Robert de Torigny, chronique.
Pourquoi on pense que c'est Burleroi ? C'est parce que, d'abord, c'est la tradition. C'est écrit sur les cadastres. Et enfin, juste de l'autre côté de la route qui est là, vous avez deux étangs qui sont également notés dans les anciens écrits concernant Burleroi.
Et si vous êtes propriétaire ?
Nous sommes propriétaires à deux amis, qui avons acheté ces deux parcelles parce que nous pensions qu'il fallait sauver Burleroi si un jour on devait faire des fouilles dedans.
Fanny Madeline, pouvez-vous nous préciser, pendant qu'on est en train de rejoindre cette haie, ce qu'est Burleroi, justement, dans cet empire des Plantagenêts ?
Burleroi, c'est l'une des principales résidences de chasse de Henri II Plantagenet, de ses fils. Elle avait été un petit peu occupée aussi par ses prédécesseurs, Henri Ier. Mais c'est Henri II qui fait reconstruire entièrement la Hola, les comptabilités de l'échiquier de Caen en 1180, mentionne les 1000 chaînes qui sont nécessaires pour faire reconstruire entièrement cette Hola en bois. Ce qui est assez étonnant, puisque la plupart des Hola, c'est-à-dire les halls, les grands espaces, les grandes salles qui servaient à abriter la cour, étaient à cette époque déjà construites en pierre depuis un certain nombre d'années.
Il y a 4 hectares, et de ce terrain, on ne voit plus grand-chose, sinon quelques monticules, ouais. Et il reste quand même au centre un puits.
Ah.
Et ce puits, on espère toujours qu'il y a quelque chose à voir avec le puits de base, celui sur lequel peut-être autrefois Henri II faisait puiser par sa cour l'eau.
Et ça, on n'en a aucune assurance, aucune parce assurance. Qu'il n'y a eu aucune fouille qui a été menée sur
aucune
cet endroit.
Aucune fouille n'a été menée, à ma connaissance. Et on a même encore quelques doutes sur l'emplacement exact.
De nombreux actes d'Henri II sont signés ici, sont signés à Bure. Elle occupe à peu près la 16e position dans le classement des demeures royales si on les classe par nombre de chartes émises dans ce lieu. Ce qui montre que c'est quand même un lieu de pouvoir assez important dans tout l'Empire Plantagenêt. C'est aussi un lieu dans lequel Henri II va organiser des festivités et donc rassembler toute sa cour pour montrer la famille royale dans son entier. Et Henri II va développer beaucoup ses palais ruraux en Normandie, mais aussi en Angleterre. Par exemple, Clarendon, où vont être signées les fameuses constitutions qui vont mettre Thomas Becket en fureur, mais aussi le palais de Woodstock, un palais aujourd'hui qui est aujourd'hui le palais de Blenheim, qui a été entièrement remodelé au XVIIIe siècle, qui a été entièrement réaménagé aussi pour Henri II pour accueillir sa cour très grande, plutôt que dans les donjons un peu étroits des centres urbains.
Alors ici, quand la cour se réunit autour du souverain et autour d'Henri II, il y a des écrivains qui participent aussi à ces soirées, ces discussions avec la famille royale.
Oui, Henri II est connu pour avoir été un grand mécène, d'avoir commandité des grandes œuvres comme celle de Vas. Donc oui, il y a des poètes qui sont rémunérés par le roi pour justement écrire ces panégyriques de la famille royale, de l'histoire des ducs de Normandie. Donc oui, Henri II est un prince lettré, ce qui est assez remarquable pour son époque, pour le souligner.
Nos courtisans endurent aujourd'hui le labeur et la fatigue. De nombreuses veilles et de grands dangers. Dangers de la mer, dangers des fleuves, dangers des ponts, dangers des montagnes, dangers des faux frères. Ils affrontent souvent la mort, brisent et épuisent leur corps, risquent leur vie. Toutes ces épreuves leur gagneraient la gloire du martyr s'ils les enduraient au nom du Christ. Mais ils sont les martyrs de ce siècle, des professeurs du monde, des disciples de la cour.
Comme le roi est en itinérance permanente, les palais royaux dans lesquels il se trouve quelques jours par an sont remplis à ce moment-là, mais sont vides de la présence du roi qui transporte avec lui l'essentiel de ce dont il a besoin quotidiennement. Donc c'est ce qui distingue un petit peu ces palais des grands centres politiques comme Caen, qui nécessitent par exemple la présence du sénéchal, et qui fait que le château de Caen est sans arrêt occupé avec une présence permanente du pouvoir.
Alors, on se dirige là, à l'intérieur du château de Caen, vers la salle de l'échiquier. On est devant la façade de la salle de l'échiquier, qui est la grande salle de réception du duc de Normandie à l'intérieur du château de Caen. Entre le grand donjon, qui a disparu à la Révolution française, et des éléments récemment découverts par les fouilles archéologiques qui occupaient tout l'angle nord-ouest du château. Il faut imaginer ici, sommes au pied de cette façade monumentale, il faut imaginer ici ce bâtiment qui fait presque 20 mètres de haut, et à côté de lui, le donjon disparu qui atteignait pas loin de 25-30 mètres. Donc on avait une expression particulièrement visible de la puissance du duc à l'intérieur de ce château, complétée d'éléments qui correspondent très vraisemblablement aux investissements que les Plantagenets ont fait vers la fin du XIIe siècle dans ce château, puisque tous les éléments révélés par les fouilles récentes sont plutôt datés de la fin du XIIe siècle dans ce site. Donc à partir du XVIe siècle, les murailles du château ont été contrebutées par d'immenses levées de terre pour retenir les murs contre les tirs d'artillerie à poudre. Ces terrassements ont fait disparaître à l'intérieur du château tout un dispositif de bâtiment et une grande salle qui est à peu près la petite sœur de l'échiquier. L'échiquier fait 10 mètres sur 30, la nouvelle salle qui a été découverte fait 20 mètres sur 10. En fait, cette cour de l'échiquier traite les questions liées aux revenus du duc et les affaires de justice liées à ces questions. Mais avant tout, c'est le symbole de la puissance du duc-roi.
On va vous suivre et vous allez nous ouvrir la porte de cette salle de l'échiquier qui est momentanément fermée. Donc une belle pierre blanche tendant vers le blond d'ailleurs. C'est cette pierre de Caen,
c'est la pierre de Caen.
Un vaste espace, effectivement. Alors, vous nous parliez tout à l'heure à Bure-le-Roi, Fanny Madeline, de ce qu'était une aola. C'est une aola où nous sommes là.
Parfaitement, c'est exactement ce type de grande salle.
On a une longueur d'une vingtaine de mètres, c'est ça ?
30 mètres.
30 mètres.
Une salle de 30 mètres sur 10, ça fait 300 mètres carrés d'un sol tenant.
Une charpente de bois. Et donc en dessous, des baies romanes ouvertes sur les deux côtés les plus longs de ce bâtiment.
Ce qui est très étonnant dans cette salle, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'elle a été magnifiquement pavée à l'époque de la Reconstruction, un dallage en céramique qui est la même céramique qui a été utilisée dans les chantiers du Mont-Saint-Michel. Mais l'archéologie nous démontre que le sol de la salle au IIe siècle est un sol en terre battue. Ce qui signifie que, vraisemblablement, quand la salle était utilisée, eh bien, on disposait tous les éléments dont on avait besoin, tapis sur le sol,
parquet,
meubles qui étaient amenés, sans doute pas de parquet, sans doute des sols provisoires, avec peut-être même simplement des tapis de jonc ou des tapis végétalisés. On y accrochait les tentures, très récemment. Il faut sans doute imaginer cette salle avec beaucoup de couleurs, mais des mobiliers qui sont des mobiliers que la cour transporte d'un lieu à l'autre.
C'est tout aussi un débat sur ces cours itinérantes. Est-ce que ces cours itinérantes se déplaçaient pour des raisons économiques de subsistance, ou est-ce que, au contraire, ce qu'on a montré récemment, ces cours itinérantes étaient des lieux vers lesquels affluaient un certain nombre de biens, et même des biens de luxe, de produits venus d'Orient qui coûtent cher et qui sont utilisés lors de ces grands banquets festifs pour montrer aussi l'éclat et la puissance de la cour lors de ces festivités où le roi rassemble ses vassaux.
Alors, nous sommes dans la salle de l'échiquier avec vous, Jean-Marie Lévesque, et avec vous, Fanny Madeline, à Caen, dans le château. D'où vient-elle, cette institution sur laquelle vous avez travaillé et qui a produit énormément d'archives, Fanny Madeline, qui vous permettent, en tant qu'historienne, de reconstituer une partie de la vie de cette cour qui était celle des Plantagenets?
Alors aujourd'hui, il y a à peu près admis que l'échiquier est une invention normande des Normands en Angleterre. Mais elle n'aurait pu véritablement exister sans le substrat administratif qui existait déjà en Angleterre. Puisqu'en fait, c'est là qu'il est inventé, c'est à Westminster. Et puis ensuite, il sera importé en Normandie. C'est une institution qui permet au roi de gouverner in absentia. C'est-à-dire qu'il permet de gouverner par ses ministres, par ses représentants. Et l'organisation territoriale de la monarchie anglo-saxonne dont héritent les Anglais est organisée autour des shires, qui est la circonscription d'un shérif. Et ces shérifs, ils doivent venir rendre compte des dépenses que le roi leur a ordonné de faire au cours de l'année. Ils viennent avec ces lettres et ils font le décompte.
Un rendu des comptes.
Un rendu des comptes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un échiquier. C'est-à-dire qu'on avait on ne faisait pas l'algèbre à cette époque-là. On comptait avec une espèce de boulier, enfin avec un échiquier, une espèce de grande table dans laquelle on faisait les comptabilités et on essayait de voir si la ferme de l'office de shérif équivalait aux dépenses qui avaient été faites par le shérif sur les ordres du roi. Et si c'était le cas, le shérif était quitte. Et si c'était pas le cas, il devait soit rendre de l'argent au trésor, soit être remboursé par le trésor royal.
Parce qu'il faut dire que cette comptabilité se tient sur des rouleaux, donc des rouleaux de parchemin que l'on déroule quand on est une archiviste comme vous, une historienne comme vous.
Oui, ce sont des rouleaux. Et d'ailleurs, ils étaient tellement importants que les Anglais les nomment le pipe rolls, c'est-à-dire en fait des rouleaux qui ressemblent à des tonneaux. La monarchie anglaise a conservé ces rouleaux de l'échiquier depuis 1156, de manière pratiquement continue. C'est une source du fonctionnement administratif de la royauté anglaise qui est absolument fascinante.
Qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt pour un lieu comme celui-ci qui permet de reposer de nouvelles questions, d'une certaine façon, à cette histoire de cette dynastie qui part conquérir l'Angleterre et puis également de la dynastie des Plantagenets qui lui succède.
Alors là, il faut prendre en compte l'histoire d'une discipline qui est l'archéologie médiévale. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'archéologie médiévale est une discipline jeune. C'est une discipline de l'après-guerre. Et c'est précisément ici, dans ce château de Caen, que cette conception a basculé sous l'action de Michel Deboire, qui a été le fondateur du Centre de recherche d'archéologie médiévale de l'Université de Caen et dont le chantier école a été le château de Caen. C'est-à-dire qu'entre 1956 et 1966, 10 ans de fouilles ont permis de dégager le donjon, les secteurs du Vieux Palais et de restaurer cette salle de l'échiquier.
Oui, parce que c'est peut-être une des grandes vertus des travaux récents et de l'archéologie et des historiens ou des historiennes comme vous, Fanny Madeline, que de ne jamais se contenter de rester soit en Normandie, soit en Poitou, soit en Aquitaine pour Henri II, mais de toujours penser à faire l'aller-retour entre les deux côtés de la Manche et à voir comment les uns et les autres se sont nourris. Parce que pour le personnel qui était autour du souverain, il y avait une continuité territoriale, là où on aurait tendance, nous, à voir effectivement une rupture, une frontière.
Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les historiographies nationales, voire régionales, ont quand même imposé leur vision des choses en disant « voilà une architecture normande, voilà une architecture bourguignonne, etc. » Et c'est vrai que travailler sur l'Empire plantagenêt permet justement de changer d'échelle d'analyse et de regarder des éléments de cohérence ou de discontinuité de part et d'autre de la Manche et même aller voir ce qui se passe en Irlande ou ce qui se passe du côté de la Garonne.
Depuis toujours, Henri Ier adorait les abbés et les moines du Bec et révérait particulièrement l'abbé Boson. Ainsi, le roi couvrait le monastère de cadeaux non seulement grâce à son abbé, mais plus encore en raison de la bonne réputation des moines dont il sollicitait fréquemment les prières, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un messager. Il était absolument évident que le roi révérait cet abbé du Bec plus encore que ses prédécesseurs, car durant tout son abbatiat, le roi donna au monastère par dévotion parfois des centaines de livres d'argent et très souvent 100 mares d'argent, alors qu'auparavant, il donnait à l'abbaye à peine plus du quart de cette somme.
Pourrait être du 11e siècle.
Juste là,
pardon.
Ici. Ah oui, là.
Et donc on a mis à jour ici des vestiges de l'église, probablement du 11e, la première.
Et du reste de l'église
Il ne reste rien.
Rien.
Rien. Si on a un tout petit élément, tout petit.
Et ce petit élément, c'est, vous faites durer le suspense.
Oui, c'est quoi? Ben, si vous voulez le voir, on va y aller.
Alors là, nous sommes dans le cloître.
17e, lui. Et en face, vous aviez, enfin au moins pour le 18e, le réfectoire, qui est actuellement notre église.
On dit qu'un lieu comme le Bec-et-Loing, ici, est un lieu, à l'époque, une sorte de phare de la pensée chrétienne. C'est parce qu'il attire à lui, d'une certaine façon.
Oui, parce que, si vous voulez, l'enfant va ouvrir ici une école qui va attirer des élèves. Un certain nombre d'élèves vont devenir moines. Et devenant moines, ils ont apporté avec eux leur patrimoine. Donc c'est l'école du Bec qui est à l'origine du rayonnement de l'abbaye. Sinon, ça serait resté un petit moutier comme d'autres.
Mais qui s'est agrandi considérablement.
Qui s'est agrandi, donc il y avait des propriétés en Angleterre, il y avait des prieurés en Angleterre, et puis dans l'île de France et la région, là.
Salut Madeleine.
Oui, cet aura intellectuel allié à la proximité avec la famille ducale explique aussi la capacité des moines du Bec de trouver des postes importants dans la hiérarchie ecclésiastique. On sait par exemple que sur les 5 archevêques de Canterbury dans le siècle qui suit la conquête, 3 viennent du Bec. Donc on a le premier Lanfranc, qui est nommé à Canterbury par Guillaume en 1070. Et puis après, il y a aussi Anselme, qui occupera ce poste sous Henri Ier. Et Théobald, aussi un moine du Bec, qui va devenir l'archevêque de Canterbury pendant la guerre civile, qui va opposer Mathilde Lempresse à Étienne de Blois. Et non seulement archevêque de Canterbury, mais on sait aussi que le pape Alexandre II était aussi un moine du Bec. Donc le rayonnement intellectuel et la formation des ecclésiastiques du Bec va avoir une grande importance sur les élites ecclésiastiques de cette Europe du XIe siècle. Et les chroniqueurs de cette époque nous racontent que Henri Ier, dès qu'il avait la possibilité de passer entre Rouen et Caen, ne manquait pas de venir voir son ami Boson. Donc il y a des liens de proximité, même on pourrait dire d'amitié. Et les souverains ont noué de relations assez étroites avec de nombreuses abbayes dans tout leur empire. Par exemple, Henri II favorisait en particulier les moines de Grandmont, donc une fondation d'Étienne de Muret qui se trouve en Limousin, non loin de Limoges. Et c'est là qu'il avait envie d'être enterré. Quant au Bec-et-Loing, la tendance, disons, dans cette fin du XIIe siècle, c'est plutôt une attraction vers ce qu'on appelle les ordres nouveaux, les cisterciens, les chartreux. Et pourtant, le Bec-et-Loing est un abbaye de bénédictins. Et Mathilde, les fondations que va faire Mathilde, sont plutôt dans cette tendance de la réforme des ordres monastiques. Et pourtant, elle va continuer à favoriser le Bec-et-Loing parce que je pense qu'elle a, oui, des proximités spirituelles avec cette communauté. Et les abbayes avaient des logements royaux, des logis du roi, qui attestent toujours le fait qu'ils accueillaient la cour lorsqu'elle était de passage.
La chambre de l'évêque et la chambre du roi. Là, nous avons un document interne qui est amusant. Nous avons signé, il y a presque 10 ans maintenant, une charte avec la cathédrale de Canterbury, avec le doyen, vous voyez, c'est toujours le même d'ailleurs. Donc il est venu là et nous avons officiellement signé tous les deux cette charte.
Des liens existent entre le Bec et Canterbury depuis les 11e et 12e siècles. 3 moines du Bec à cette époque sont devenus archevêques de Canterbury, Lanfranc, Anselme et Théobald. Nous avons le désir d'approfondir cet héritage commun par une meilleure connaissance mutuelle et un renforcement de nos liens spirituels. Vous vous engagez donc, en l'occurrence, Père Abbé, à vous rendre visite tous les ans, dans la mesure du possible, une année au Bec et l'autre à Canterbury, c'est ça ? À partager d'une manière ou d'une autre les grands événements de nos deux communautés, à nous accueillir en frères et sœurs dans le Christ, à prier chaque jeudi pour l'unité des chrétiens et pour chacune de nos deux communautés. Et donc, c'est signé de l'abbé du Bec et du doyen du chapitre de Canterbury. Vous avez eu cette idée parce que vous étiez persuadé qu'il fallait renouer avec une longue histoire ?
Oui, et puis parce que quand les frères sont revenus ici en 48, il y a eu un mouvement entre la cathédrale et ici qui est rené. Hein, et puis cette génération disparaissant s'est aperçue qu'on pouvait très vite oublier. Donc il nous a semblé important de signer un acte qui nous engage, nous et nos descendants.
Et les gens de Canterbury viennent vous voir régulièrement ?
Ah, oui, ils sont presque plus assidus que nous.
Parce qu'ils y voient aussi peut-être un fondement de leur histoire.
Ils sont plus attachés que nous à leur histoire, je pense. Quand on leur parle du roi William, c'est contemporain. Hein.
Oui, c'est l'origine de l'histoire de l'Angleterre.
Donc vous voyez, la base des murs, là, on est au XIIe siècle. Et on a édifié cette cage d'escalier au XVIIIe siècle.
C'est ça.
On a un petit vestige de polychromie, là.
On a conservé le... Voilà.
Alors maintenant, vous allez lire ça avec le ton dramatique que vous mettiez tout à l'heure.
Ce 15 avril 1966, 9 siècles après la bataille d'Hastings, en cette abbaye dont plusieurs des fils, à l'appel du duc roi Guillaume, sont partis servir outre-Manche, a été solennellement célébrée la mémoire de tous les Normands de France et d'Angleterre, tombés au cours des âges face à face ou côte à côte. Leurs sacrifices et leurs combats ont engendré une histoire commune, ainsi qu'une ineffaçable fraternité d'armes. Qui est à l'origine de cette plaque ?
Je ne sais pas.
C'est une sorte de prédécesseur à votre rapport à Canterbury, mais on est moins dans la paix que dans la guerre. On est mort, on est tombé au cours des âges, face à face ou côte à côte. C'est donc le point final de cette visite.
Enfin, je ne sais pas, sauf si vous voulez, non, si vous voulez autre chose.
Vous avez vos vêpres qui vous attendent.
Alors que les grands travaux de construction avançaient, on raconte qu'il arriva une chose prodigieuse aux Andelys. Durant le mois de mai, un peu avant les solennités de l'Ascension, le roi pressait l'avancement du chantier. Il venait souvent en effet pour accélérer son achèvement et prenait beaucoup de plaisir à observer sa construction, quand soudainement il se mit à pleuvoir de l'eau et du sang, à la stupeur de tous ceux qui étaient présents aux côtés du roi. Remarquant des taches de vrai sang sur leurs vêtements, ils commencèrent à craindre que cet événement si inhabituel soit le fait du malin. Mais cela ne détourna pas le roi de son objectif, ni ne relâcha son attention pour l'avancement des travaux auxquels il prenait tant de plaisir, à tel point que, même si un ange était descendu du ciel pour le persuader d'abandonner, il n'aurait rencontré qu'une volée d'injures et le chantier aurait continué comme si de rien n'était. Guillaume de Neubourg, chronique.
Dernière étape de notre périple avec vous, Fanny Madeline, sur les pas des souverains et ducs de Normandie au XIIe et début du XIIIe siècle. Nous nous trouvons ici sur la terrasse de Château Gaillard qui domine une boucle de la Seine. Le pâle soleil d'hiver essaye de disperser les brumes qui sont au pied du château. Cet endroit a été choisi par qui et pourquoi ?
Alors, ce site a été choisi par Richard Cœur de Lion. À son retour de croisade, il essaie de reconquérir une partie de la Normandie qui avait été conquise par Philippe Auguste alors qu'il était retenu en captivité en Allemagne. Et son frère Jean Santerre avait perdu un certain nombre de terres en Normandie et donc Richard entreprend de reconquérir l'héritage perdu par son frère. La construction de la forteresse intervient après une paix qui est signée entre Philippe Auguste et Richard qui s'appelle la paix de Louviers et qui donne lieu au traité de Gaillon. Et dans ce traité de Gaillon est indiqué et délimité une sorte de zone démilitarisée entre Gaillon et Le Vaudreuil, dans laquelle les deux rois s'engagent à ne pas fortifier, à le laisser libre de toute incursion de l'un et de l'autre. Mais cela pose la question des Andelys, qui se trouvent exactement au milieu de cette zone entre Gaillon et Le Vaudreuil. Et le bourg des Andelys est un bourg dont le seigneur est l'archevêque de Rouen. Et Richard, à l'encontre du traité de Gaillon qui stipule bien que les Andelys ne devront pas être fortifiés, décide de prendre la place et d'y installer sa forteresse. Alors ça crée évidemment des conflits importants avec l'archevêque de Rouen, mais Richard obtient l'autorisation de fortifier ce site de la part de Célestin III, donc le pape, qui fait que l'archevêque de Rouen est obligé de se retirer et de laisser Richard fortifier la place.
Alors, cette place est donc, on l'a dit, en surplomb au-dessus d'une boucle de la Seine. Et il va falloir très peu de temps à Richard Cœur de Lion pour pouvoir fortifier à la fois Château Gaillard, mais aussi le bourg des Andelys et la petite île qui est en face, au milieu de la Seine.
Voilà, donc le traité de Gaillon est signé en 194 et la forteresse est achevée en 198.
4 ans.
Donc il faut un peu moins de 4 ans puisque les travaux débutent plutôt en 195 si l'on s'en tient aux comptabilités de l'échiquier de Normandie.
Et pourquoi cet investissement dans cet espace normand? Nous sommes partis avec vous depuis Barfleur, on est dans le Cotentin, on est descendu ensuite à Caen, qui est la capitale politique de la Normandie depuis Guillaume le Conquérant. Et là, on est à l'extrême est de cette Normandie, et c'est là où investit justement Richard Cœur de Lion. Vous avez travaillé sur ce glissement géographique sous les souverains plantagenets, Fanny Madeline.
Oui, alors en réalité, les attaques des Capétiens se sont faites tout au long de la période à différents endroits, mais l'un des nœuds de crispation entre les deux monarchies, c'est vraiment le Vexin. D'abord Gisors, sous Henri Ier et Henri II, et on voit progressivement, au cours des trois règnes, cette frontière du Vexin normand reculer vers Rouen sous les assauts des attaques capétiennes. Et la raison pour laquelle Philippe Auguste investit massivement en Normandie, c'est qu'il sait que dès qu'il tient Rouen, il tient la Normandie. Et surtout, Rouen a un rôle vital, c'est que justement, c'est le port de la Seine, et la Seine qui arrive à Paris.
C'est ce qui expliquerait, selon vous, cet investissement massif de Richard Cœur de Lion dans cette vallée de la Seine, parce qu'il voit bien la menace et que c'est le cadenas qu'il faut en continuer à tenir pour éviter justement que toute la Normandie tombe aux mains de Philippe Auguste.
C'est vrai que c'est ici que se trouve le cœur de la Normandie historique.
C'est la naissance de la Normandie. Et
Richard sait très bien que tenir cet espace-là, c'est tenir la Normandie.
D'abord, il assiégea la forteresse, située comme il y dit plus haut, dans une île. Il campa sur la rive méridionale de la Seine, du côté du Midi, et ayant dressé des pierriers et des machines de guerre, il commença, en lançant des pierres, à endommager les remparts couverts de clés. Mais les assiégés se mettaient peu en peine des pierres, des flèches et de tous les traits qu'on leur lançait ainsi, et dont ils se tenaient à l'abri sous les voûtes et les égouts. Le roi, voyant qu'il ne viendrait à bout de rien de cette manière, fit amener de différents ports une quantité innombrable de bateaux, non de bateaux creux, mais plats, sur lesquels on a coutume de transporter les hommes, les bêtes de somme et les chariots d'un des bords de la Seine à l'autre, les fit joindre ensemble par les flancs d'une rive à l'autre et construisit ainsi un pont d'un plancher de bois admirable. Il assura, par des pieux très forts, les bateaux qui soutenaient le pont et y plaça des tours en différents endroits. Le pont étant construit, il fit passer la plus grande partie de son armée au-delà de la Seine et passa lui-même avec elle. Il campa de l'autre côté de la Seine et attaqua l'île par un double siège.
On peut dire que d'une certaine façon, c'est le début de l'histoire de la Normandie qui se joue ici avec Roland et l'arrivée de ces Normands dans cet espace géographique. Et c'est aussi la fin d'une certaine Normandie, la Normandie anglo-normande en l'occurrence.
Oui, alors c'est très étrange. Alors que Richard avait énormément investi dans ce palais et qu'il y résidait de manière quasiment permanente en 98, on voit qu'il y est quasiment toute l'année pour surveiller le château. À sa mort en 99, Jean n'occupe quasiment jamais les Anglais.
Son frère, Jean Santerre.
Jean Santerre, celui qui lui succède, son petit frère, c'est lui qui lui succède au royaume d'Angleterre, au duché de Normandie. Et lui va plutôt résider à Rouen, il va investir plutôt dans les deux forteresses qui ferment le méandre de Rouen, qui sont la Roche-de-Rival et Moulineau. Et Jean fait même fortifier les murs même de Rouen, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas empêcher cet assaut capétien. Et d'ailleurs, lorsque les armées de Philippe Auguste arrivent en février 1204 devant la forteresse de Château-Gaillard, il n'y a pratiquement personne, elle est quasiment vide. Et elle va être prise en moins d'un mois, parce que faute d'avoir des renforts, ils ne pourront pas tenir la forteresse, qui n'avait pas été conçue par Richard comme une forteresse véritablement défensive. En fait, c'était plutôt le lieu à partir duquel il voulait aller reconquérir son héritage.
Et donc, cette prise va signer la fin de la Normandie anglaise, d'une certaine façon, en 1204.
Oui, en fait, la prise symbole de Château-Gaillard va être extrêmement importante dans la démoralisation de l'aristocratie normande. Et quelques mois plus tard, effectivement, Philippe Auguste arrive à Rouen et prend la ville de manière... presque les bourgeois lui ouvrent les portes.
Est-ce qu'on va assister à ce moment-là à un exil des nobles normands vers l'Angleterre ? Vont-ils suivre cette dynastie de l'autre côté de la Manche ou vont-ils rester ici pour travailler avec le nouveau souverain, Philippe Auguste ?
Oui, Jean pose très clairement la question à ses vassaux. Et donc cette aristocratie qui depuis un siècle et demi s'était construite de manière transmanche va devoir se diviser. Alors ceux qui avaient leurs principaux intérêts en Normandie et parfois au-delà sur le continent vont rester en Normandie, vont abandonner l'hommage au roi d'Angleterre. Par contre ceux dont les principales terres se trouvent en Angleterre vont traverser la Manche. Et en 1204, Jean entreprend de faire une enquête pour récupérer toutes les terres de ces vassaux normands qui ont choisi le Capétien pour pouvoir se les réapproprier et éventuellement les redistribuer à ses fidèles qui l'ont suivi de l'autre côté de la Manche.
Et ça sera fait ?
Ça sera fait.
À la cour des Plantagenêts, une chevauchée normande, avec Fanny Madeline, Julien Des Hayes, Hubert Sainte-Beuve, Laurence Jean-Marie, Jean-Marie Lévesque et frère Paul-Emmanuel, abbé du Bec-et-Loing. Les textes étaient lus par Daniel Königsberg, la prise de son signée Frédéric Quérou, le mixage Jean-Michel Bernot, un documentaire d'Emmanuel Laurentin, réalisé par Séverine Cassard. Voilà pour ce documentaire. D'ici quelques minutes, vous pourrez d'ailleurs suivre sur la page de notre émission sur franceculture.fr l'itinéraire cartographié de cette chevauchée normande préparée par Marion Dupont et cette chevauchée normande que nous avons accomplie avec Fanny Madeline et tous les historiennes et historiens que nous remercions d'y avoir participé. Demain, nous continuons notre série sur le Moyen-Âge en mouvement en visitant l'exposition sur les temps mérovingiens au musée de Cluny à Paris.